Salut Anne-Sophie, salut Raph.
Salut Marc.
Salut Marc.
Ravi de vous retrouver. On est toujours ensemble pour notre dernier épisode qui est dédié à ce projet inquiétant mondial de deep sea mining qui consiste à aller récolter au fond des océans dorénavant des métaux rares et précieux tels que le cobalt, le nickel, le manganèse, etc., etc. Tous ces métaux dont on a besoin, notamment dans l'industrie de l'électronique et des bagnoles électriques, pour faire simple et court. Il y a d'autres usages évidemment. Dans ce dernier épisode, on va voir votre action. On va voir ce que réclament les scientifiques, ce que conseillent les scientifiques, la voix de la sagesse versus tous ces accaparateurs, pour rester simple et poli, industriels évidemment. Donc Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement les raisons qui font que les scientifiques aujourd'hui appellent d'urgence à un moratoire, c'est-à-dire à siffler un petit coup dans le sifflet, dire bah on n'en sait pas assez, là vous voulez commencer à exploiter, etc., à tout dévaster déjà là, on a juste besoin d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous le détailler les raisons?
Donc effectivement, ça fait des années que les scientifiques, et notamment les scientifiques spécialistes des écosystèmes abyssaux, appellent les politiques à freiner en fait cette frénésie des entreprises et des industriels miniers qui veulent à tout prix accélérer l'adoption des licences d'exploitation, donc en juin 2023. Et ce, pour plein de raisons. La première, tu l'as dit Marc, c'est le manque de connaissances scientifiques, à la fois sur les profondeurs marines, sur les écosystèmes, sur la biodiversité, etc. Aussi sur les impacts qui seraient irréversibles de leurs activités minières. La deuxième raison, c'est que compte tenu de ce manque de connaissances abyssales, sans vouloir faire de jeu de mots, on doit mettre en œuvre le principe de précaution, puisque sans une compréhension scientifique de ces écosystèmes, on ne peut pas, on ne devrait pas en tout cas, aller détruire un écosystème plutôt que d'ouvrir dans la précipitation l'exploitation minière. Il faut au contraire investir dans la recherche et financer les scientifiques en fait, qui vont explorer ces fameux écosystèmes. Troisième raison du moratoire, pour laquelle les scientifiques appellent à un moratoire, c'est que l'on doit en fait préserver les avantages climatiques de l'océan profond. Donc comme Raphaël l'a expliqué, notamment pour sa capacité considérable à absorber et à séquestrer le carbone. En bref, l'océan, c'est notre meilleur allié pour atténuer la crise climatique. On doit refuser son exploitation pour préserver ses avantages climatiques. Ensuite, une autre des raisons, c'est qu'il faut investir dans une économie qui soit circulaire plutôt qu'extractiviste et apprendre des erreurs de notre passé et en fait investir dans le recyclage des déchets électroniques, puisqu'aujourd'hui, il y a très très peu de ces déchets qui sont vraiment recyclés. Et donc, en fait, si on savait recycler ces déchets, si on investissait dans ces infrastructures, on pourrait répondre à la demande croissante. Donc l'argument des industriels miniers qui dit on n'a pas le choix, dans tous les cas, on doit répondre à la demande, elle est fausse en fait, cette affirmation, puisqu'on pourrait répondre si on savait recycler. Et enfin, le dernier argument, c'est on a absolument besoin d'un processus qui soit transparent et inclusif. Donc on ne peut pas autoriser la destruction de l'océan profond dans la manière où l'AIFM aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire entre portes closes, entre des États et des industriels miniers qui discutent entre eux dans leur petite salle de négociation à Kingston. Il faut que tout le monde soit à la table des négociations, notamment les communautés du Pacifique qui seraient les premières impactées, mais aussi les jeunes, l'ensemble de la société civile.
Kingston, la patrie, la capitale de la Jamaïque, la capitale du reggae et du très bon rhum. Raph, il n'y a pas que des scientifiques qui appellent à un moratoire, paradoxalement, il y a aussi des grosses boîtes, il y a aussi des gros monstres. Il semble qu'il y a Google ou d'autres qui s'élèvent contre. Explique-nous pourquoi.
Oui, donc contre toute attente, des grandes entreprises comme Google, BMW ou Philips ont rejoint cette demande de moratoire et surtout refusent d'utiliser dans leurs produits des minéraux qui proviennent de l'océan profond. Pour en citer d'autres qui sont peut-être un peu plus petites mais connues aussi, Patagonia et en France, le groupe Renault également.
D'accord, donc mais pourquoi ils ont rejoint ces voies-là? Qui sont les vôtres? On imagine que c'est pour des raisons économiques.
En fait, oui, déjà, il y a des raisons économiques qui font que foncièrement, ils n'ont pas besoin d'aller utiliser ces minerais qui proviennent de l'océan. Et c'est aussi pour une vision pas court-termiste, justement. C'est en fait, ils écoutent la parole des scientifiques et ils disent, tant qu'on n'a pas assez de connaissances, on met en œuvre le principe de précaution. Et nous, Google ou nous, Renault, on s'engage à ne jamais utiliser de minerais qui proviendraient de l'océan profond. Et donc, en fait, ça fait un argument économique en moins pour les industriels miniers, que si personne veut les acheter, ces minerais, bon, bah, y a un
si
peu
leurs
moins
clients, si certains de leurs clients, de leurs gros clients n'en veulent pas, ça mine un petit peu, toi qui aimes bien faire des jeux de mots là-dessus,
Exactement.
la position de nos amis mineurs, miniers.
Exactement.
Alors, avec tous vos amis de Lockdown, ce collectif qui essaye d'alerter sur cette menace qui plane sur les fonds océaniques, vous êtes allé non pas en avion, tu l'as bien souligné, Raph, mais en bus à Lisbonne fin juin 2022 à cette énorme conférence de l'ONU qui s'appelle la UN Ocean Conference, dans laquelle il y a tous les acteurs qui étaient là, et dont vous, les activistes. Alors, c'est un mot que j'aime pas trop, parce que ça fait un peu punk à chien. Non, mais tu vois ce que je veux dire, activiste, j'ai l'impression que ça fait peur à tout le monde. Mais il faut bien que quelqu'un se mouille la chemise pour alerter pour ce qui se passe. Alors, concrètement, vous y êtes allés. Rappelez-nous quels étaient les enjeux. Donc, toute cette équipe-là de Lookdown, ce nom si rigolo qui, évidemment, évoque Don't Look Up. On le redit, on l'avait déjà dit dans le premier épisode, mais on le redit maintenant. Ce film extraordinaire avec Leonardo DiCaprio. On rappelle que c'est une météorite qui va s'écraser sur Terre, qui va annihiler toute vie sur Terre. Les mecs, ils se préoccupent encore d'exploiter le métal qu'il y a dans la météorite. Bref. Donc, on comprend pourquoi avec humour, votre mouvement s'appelle Lookdown. Avec toutes ces grosses assos françaises, hein, on répète Greenpeace, Comité français de l'UICN, il y a le WWF, il y en a beaucoup d'autres, il y a Camille Etienne, cet activiste très connu, qui est votre ami, qui vous soutient évidemment, qui se bat aussi pour ça. Donc bref, je suis un peu long, mais vous êtes allé à Lisbonne pour porter ces voix-là, et donc c'est le moment de détailler votre action, votre discours.
En fait, pour faire peut-être un contexte sur pourquoi la création en fait, du collectif et de l'action Lookdown, l'idée principale, vraiment le premier objectif, c'était vraiment de faire en sorte que le grand public en France soit au courant des enjeux et se saisisse du sujet. Je me rappelle d'un des tout premiers webinaires que j'ai fait sur le sujet, donc c'était au tout début du Covid, donc c'était en distanciel, mais il y avait notamment donc Diva Amon, qui était cette fameuse scientifique spécialiste des abysses, et on lui a demandé à la fin du webinaire, nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens non scientifiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, en fait? Et le principal truc qu'elle nous a dit, c'est en parler et faire du bruit. Donc vraiment, le maximum, il faut en parler sur les réseaux, dans la presse, dans les médias, etc., faire pression sur les gouvernements, parce qu'ils ont besoin, les scientifiques spécialistes ont besoin que les sphères autres que scientifiques se saisissent du sujet. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai contacté Camille à la fin de l'année 2020, puisqu'il y avait en février 2021 le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest, qui était un des grands sommets pour l'océan, dans lequel du coup on a commencé à parler du deep sea mining. Et on a eu plusieurs petites victoires à ce moment-là, puisque la presse en a beaucoup parlé. Annick Girardin, qui était notre ministre de la mer,
qui ne l'est plus. Hein.
Qui ne l'est plus, et d'ailleurs, il n'y a même plus de ministère de la mer.
C'est devenu un secrétaire d'État, c'est ça ?
Voilà, oui, c'est ça.
Secrétariat d'État.
Secrétariat, exactement. Donc, c'était la première fois où un journaliste lui posait concrètement la question en interview. Est-ce que, oui ou non, vous allez miner le fond de l'océan ? Enfin, voilà, il y a eu plein d'avancées, je dirais, sur le côté mise en lumière du sujet, ce qui était génial.
Quelle fut sa réponse ?
Une réponse très...
De Normande ?
Ouais, voilà, exactement. Et en fait, concrètement, c'était la réponse des lobbies miniers, qui était de dire... Évidemment, on va miner le fond de l'océan, mais évidemment, on va le faire de manière durable. Ce qui, on le répète, n'a aucun sens d'un point de vue scientifique. Donc, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. Mais voilà, globalement, la dernière grosse action de Lookdown, c'était à Lisbonne. Donc, comme tu l'as dit, à la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Donc, ce qui nous amène à la petite aventure qu'on a vécue tous ensemble fin juin à Lisbonne pour le sommet de l'ONU sur les océans. Donc, comme tu disais, on est allé en bus. Donc, on s'est fait 27 heures de bus. C'était dur, mais ça valait le coup parce que c'était super cool. Je pense qu'on peut départager cette semaine en trois grands événements clés qui ont vraiment fait avancer le débat sur l'exploitation minière des fonds marins. La première, c'était tout au début, il y a une alliance de pays qui se sont prononcés en faveur d'un moratoire. Cette alliance, elle était composée de Palau, de Fidji et des Samoa. Ça reste une alliance qui est très petite puisqu'elle est composée que d'États du Pacifique qui sont relativement de petite taille. Depuis, il y a les États fédérés de Micronésie qui ont rejoint, mais c'était néanmoins un pas en avant quand même énorme avec une conférence à laquelle on a eu la chance d'assister où les représentants de ces pays ont pu prononcer leur opposition à l'exploitation minière des fonds marins. Moi, cette conférence, j'ai adoré juste d'un point de vue personnel parce qu'il y avait notamment une femme qui s'appelle Debbie Ngawera Packer qui est la leader du parti Maori en Nouvelle-Zélande. Elle avait une façon d'aborder le sujet que j'ai trouvé super intéressante, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme nous on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de parler des impacts écologiques, économiques, etc., elle a tout de suite abordé ça à travers le prisme culturel, c'est-à-dire que dans la culture maori, il y a une connexion forte avec l'océan depuis déjà des millénaires. Elle a d'ailleurs utilisé le terme que l'océan était inscrit dans leurs gènes. Donc forcément, ils ne pouvaient que s'opposer à cette industrie, parce que détruire les océans, même quelque chose de lointain comme les abysses, c'est détruire une partie de leur culture. Et c'était un discours qui était vraiment très marquant et que peut-être que si quelqu'un à l'Assemblée nationale en France commençait son discours comme ça, il se ferait peut-être un peu rironner. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme façon d'aborder le sujet et on a beaucoup à apprendre de ces états-là. Le deuxième grand événement, c'était une alliance de parlementaires, donc pas de parlementaires européens, de parlementaires à l'échelle internationale, qui ont lancé un appel pour le moratoire. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu la première grande action de Lookdown, qui a super bien marché, je dirais d'ailleurs, c'était d'envoyer massivement...
L'autocongratulation, Raph, l'autocongratulation. Essaye de faire attention à ça.
Bah, il faut célébrer les victoires quand même, c'est important.
Mais d'ailleurs, moi, j'y suis pas rien, parce que j'ai absolument rien fait pour cette action-là en particulier, mais l'idée, c'était d'envoyer massivement des mails aux députés français, au Sénat, aux députés européens, pour qu'ils rejoignent cette alliance. Donc pour ça, on a eu l'aide de développeurs de Harvard qui ont fait un petit code qui permettait, juste en appuyant sur un bouton, d'envoyer un mail à tous les députés français et tous les députés européens. Grâce à Camille, qui est extrêmement suivie sur les réseaux, ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de mails qui ont été envoyés.
Camille Etienne, hein, pour ceux qui prendraient l'épisode en cours de route.
Oui, pardon, Camille Etienne. Dans les jours qui ont suivi, on l'a suivi, on l'a posté sur les réseaux, il y a énormément de députés qui ont rejoint cette alliance.
Donc aujourd'hui, on est bientôt 2 mois après la fin de la UN Ocean Conference, donc de juin 2022. Il y a plus de 200 parlementaires au niveau européen qui se sont prononcés en faveur du moratoire. Donc c'est à la fois des sénateurs, des députés français et aussi des parlementaires européens. Et on rappelle qu'on n'aurait jamais pu faire tout ça sans le leadership de parlementaires européennes qui s'appellent Marie Toussaint et Caroline Rousse, qui sont donc 2 membres du Parlement européen qui, en fait, nous ont énormément aidés puisqu'elles ont été les figures de proue de ce mouvement-là et elles ont réussi, enfin, on a réussi collectivement, on va dire, à avoir un impact politique, quoi.
Pour être concret, 200 parlementaires européens, on rappelle qu'il y a combien de parlementaires à Strasbourg ? Il me semble qu'il y en a plus de 600, c'est ça ?
Donc en tout, on a eu plus de 200 parlementaires au niveau européen qui se sont positionnés en faveur du moratoire. Et on rappelle qu'au niveau total, le Parlement européen est composé de 705 députés, donc à travers les 27 États membres de l'Union européenne.
Des affreux gauchos, hein, ces 200 dont tu parles. Enfin non, mais juste pour situer, évidemment, c'est pas les... Je ne sais pas comment dire.
Ouais, pas que. C'est vrai qu'il y a une grosse représentation des partis de gauche, notamment dans l'Assemblée nationale française. Mais il y a aussi quelques résistants, on va dire, voilà, des gouvernements, enfin des partis plutôt centristes et celui d'Emmanuel Macron, etc. Donc il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est sûr que c'est une minorité.
Raph, tu avais évoqué 3 événements importants, comment dire, réjouissants. On en a vu 2, il en reste un, c'est lequel ?
Donc c'était le dernier jour de la conférence, c'était jeudi pour être précis. On avait une action qui était planifiée depuis déjà bien longtemps avec un collectif de danseuses qui s'appelle le collectif Minuit 12, qui en fait sont habitués à faire des expressions donc artistiques de la danse pour des causes activistes. Ils ont notamment fait une danse pour le projet ICOP, qui est un projet de pipeline mené par Total Energy. Et donc là, ils sont venus à Lisbonne pour faire cette aidée par...
En Ouganda, hein, c'est ça ?
En Ouganda, excuse-moi. Ouais. Et donc là, ils sont venus à Lisbonne aider avec des danseuses locales pour donc faire une démonstration, faire une très très belle danse à thématique donc, de l'exploitation minière des fonds marins qu'on a filmée et qui sera publiée prochainement. Et juste après ça, on est allé boire une bière ensemble et puis on apprend que Emmanuel Macron a fait un discours à l'Aquarium où il a, et je cite, dit « Je pense que nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds marins en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger les écosystèmes océaniques ». Donc là, c'était une énorme surprise parce que traditionnellement, la France, qui, on le rappelle, est la deuxième plus grande zone économique océanique au monde.
Après les États-Unis.
Après les États-Unis, était traditionnellement plutôt en faveur de l'exploitation. Petite anecdote, il semblerait qu'en fait, la position du président ait changé, notamment après son arrivée à Lisbonne. Et il a eu une discussion avec Sylvia Earle, qui est une icône, une femme, un symbole de la biologie marine. Elle est notamment détentrice du record de plongée le plus profond à, il me semble, 274 mètres de profondeur. Donc c'est quelqu'un d'incroyable. Et elle a discuté avec Emmanuel, je sais pas trop ce qu'elle lui a, avec Emmanuel Macron, et je ne sais pas trop ce qu'elle lui a dit, mais apparemment, il a changé d'avis. Et quelques heures plus tard, il sort cette déclaration.
Donc on a fini tes 3 réjouissances que tu as bien résumées. Mis à part l'imposition d'Emmanuel Macron, de manière plus générale, quelle est la position de la France ?
Oui, en fait, pour revenir un petit peu quelques mois en arrière et pour comprendre pourquoi la déclaration de Macron à Lisbonne a été une telle surprise pour tout le monde. En fait, donc, la France a 2 permis d'exploration minière à l'AIFM. Elle est membre de l'Assemblée générale de l'AIFM.
On rappelle que l'AIFM, c'est...
L'Autorité internationale des fonds marins, excusez-moi. C'est l'entité qui régule les activités minières en haute mer.
Ce que tu avais appelé les loups dans la bergerie. Hein,
voilà,
chargé de sécuriser la bergerie.
Voilà, exactement. Donc la France a un poids énorme à la fois dans les négociations de l'Autorité internationale des fonds marins. Elle est membre du Conseil, donc elle participe à l'édiction du Code minier, donc ce fameux cadre légal qui va encadrer les pratiques minières que l'on a présenté dans le 3e épisode. Et comme le disait Raphaël, c'est aussi la 2e aire maritime au monde derrière les États-Unis. Donc il y a un enjeu à la fois pour la France de réguler le deep sea mining en haute mer, mais aussi dans ces zones économiques exclusives qui s'étendent dans tous les océans. Il y a vraiment un avant Lisbonne et un après Lisbonne, ça c'est sûr. Avant Lisbonne, les positions du gouvernement français étaient pour le moins très floues. On va dire ça comme ça. En fait, la première occurrence du deep sea mining sur la scène publique, j'allais dire, c'était pendant le discours de France 2030 d'Emmanuel Macron. Si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2021, je crois. Et en fait, dans ce discours, il mentionne l'exploitation minière en eau profonde, mais sur un ton super enthousiaste. On va aller découvrir les fonds marins et potentiellement récolter des nouveaux minerais, ça va être super. Donc déjà, premier red flag, on va dire, de la position française. Donc ça, c'était avant le One Ocean Summit. Donc là, il y a beaucoup d'ONG, donc on a déjà mentionné en France, comme Greenpeace, WWF, le Comité français de l'IUCN, etc., qui ont essayé d'interpeller le gouvernement en disant « Est-ce que vous pouvez élaborer cette position ?» Et donc, entre ce moment-là et le One Ocean Summit, il y a eu très peu de clarifications. On a eu cette déclaration de Madame Girardin, du coup, à Brest pendant le One Ocean Summit.
C'était quand, One Ocean Summit ?
C'était en février 2022.
À Brest, hein.
À Brest, exactement. Et donc, elle disait qu'en gros, ils allaient ouvrir la porte à l'exploitation minière des fonds marins, mais pas avant d'être sûr que ça n'endommagerait pas les fonds marins et la biodiversité, ce qui, pour les scientifiques, on le rappelle, est un non-sens, puisque miner égale destruction des écosystèmes. Donc, avant Lisbonne, on avait une position qui était plutôt pro-deep sea mining et un peu volontairement opaque, voire floue. Et donc, l'une de nos missions et de nos revendications pour Lisbonne, c'était de clarifier cette fameuse position, compte tenu déjà de l'urgence, de la loi des 2 ans, donc qui est cette loi à l'Autorité internationale des fonds marins qui fait que la phase d'exploitation pourrait démarrer en juin 2023, et compte tenu aussi du poids de la France, en termes maritimes et en termes de négociations, en fait, en termes politiques, diplomatiques. Donc, depuis cette fameuse déclaration surprise d'Emmanuel Macron...
Bonne surprise.
Oui, carrément plutôt bonne surprise. En tout cas, ça va... clairement dans le même sens, enfin dans le bon sens, puisqu'il parle d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt au deep sea mining. Et donc, mettre un coup d'arrêt au deep sea mining, ça, littéralement, ça va encore plus loin qu'un moratoire. Un moratoire, c'est par définition, c'est une pause. Ce que demandent les scientifiques, c'est on appuie sur le bouton pause, on arrête de vouloir se dépêcher, en fait, d'extraire, d'ouvrir la phase de l'exploitation. Donc lui, quand il parle d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt au deep sea mining, ça paraît aller encore plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a suivi, depuis la conférence de Lisbonne, on a suivi de très très près les représentants de la France à l'Autorité internationale des fonds marins, et notamment M. Guyon Varche, qui est notre ambassadeur en Jamaïque, et du coup notre représentant, le représentant de la France dans les négociations de l'Autorité internationale des fonds marins. Donc on s'est réunis, on a créé une petite équipe avec donc, le collectif Lookdown et aussi la Deep Sea Conservation Coalition, qui est cette fameuse coalition qui rassemble les experts, les ONG, les activistes, etc. Concrètement, on écoute toutes les négociations, tout ce qui se dit dans les salles de négociation. On retranscrit tout, on écrit mot par mot qui dit quoi pour pouvoir le ressortir sur les réseaux sociaux et pour pouvoir, si besoin, interpeller notamment M. Guyon Varche sur la position française et aussi, évidemment, célébrer les pays qui vont plus loin et qui se positionnent en faveur du moratoire. Il y en a quand même, il y a le Chili, le Costa Rica qu'on remercie parce que c'est vraiment les seuls à être leader et à vraiment dire « Vous êtes complètement tous tarés, faisons une pause !»
Je dois dédicacer cet épisode à mes amis chiliens. J'ai vécu 6 ans au Chili et pousser ce cri que tous les Chiliens comprendront « Viva Chile, mierda !» C'est le grand cri d'amour des Chiliens à leur propre pays. Très
et
bien.
Ben là, oui, et ça vaut le coup de le pousser, ce cri.
« Viva Chile, mierda !» D'accord, on le redira à la fin de l'épisode. Anne-Sophie et Raphaël, quelles sont les prochaines étapes concrètement dans ce grand dossier ?
Bah globalement, là, la semaine dans laquelle on enregistre cet épisode, donc, c'est une semaine qui est absolument cruciale. Donc, c'est du 1er au 5 août 2022. C'est la semaine de l'Assemblée générale de l'Autorité internationale des fonds marins. Donc, c'est concrètement là où tous les pays font des déclarations les uns après les autres, suggèrent des votes sur certains sujets. Et du coup, c'est là que les pays, justement, peuvent faire élever la voix pour le moratoire et poursuivre cette dynamique qui a été initiée à Lisbonne, que Raphaël a présenté, donc l'alliance des États, l'alliance des parlementaires pour le moratoire. Donc on attend beaucoup de cette semaine-là, qui va bientôt se terminer, mais qu'on suit, et que d'ailleurs tout le monde peut suivre aussi sur les réseaux sociaux et sur le site de la Deep Sea Conservation Coalition. Et globalement, le prochain gros rendez-vous, c'est la dernière réunion de l'AIFM, de l'Autorité internationale des fonds marins. C'est en octobre-novembre de cette année, donc de 2022. C'est la dernière réunion du Conseil, donc la dernière réunion avant la fameuse date butoir de juin 2023 qui ouvrirait du coup les portes à l'exploitation minière de l'océan profond.
Alors, on a fini les prochaines étapes ?
Donc pour nous, le collectif Lookdown, les prochaines étapes, c'est après être passé un peu sur le devant de la scène à Lisbonne, faire des actions auprès du grand public, sur les réseaux sociaux, d'interpeller les décideurs, etc. Là, l'idée, c'est de passer un peu plus du côté des coulisses et de continuer à faire du lobbying auprès du gouvernement français. Et notamment sur la question de ces ZEE, donc ces zones économiques exclusives, puisque là, Macron a mentionné vouloir mettre en place un cadre légal pour stopper le deep sea mining en haute mer, ce qui est super, c'est déjà une bonne première étape. Mais la France a le deuxième espace maritime au monde et il y a énormément de ressources minières, notamment dans le plateau continental, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, qui inquiètent les scientifiques et les ONG, puisque c'est sous juridiction française. Et du coup, concrètement, ils pourraient demain aller miner le fond de l'océan dans les eaux françaises, du coup, pas les eaux internationales. Donc nous, notre sujet, c'est déjà de pousser la voie du moratoire à l'échelle de la haute mer, donc dans les négociations de l'Autorité nationale des fonds marins, mais en parallèle, de ne pas oublier les zones sous juridiction française, puisqu'elles s'étendent dans les cinq océans, et ça aurait évidemment des conséquences dévastatrices. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur le côté lobbying et mettre la pression. Et pour ça, on a besoin de tous et de toutes.
Raph, concrètement, pour terminer cet épisode, on a compris qu'il fallait rester attentif. Comment les auditorices peuvent aider ceux qui sont conscients du problème? S'ils veulent vous aider, comment on vous aide?
Donc si vous aussi c'est un sujet qui vous révolte comme nous, sachez que vous pouvez nous aider, et surtout en fait tout ce qu'on fait n'est possible que grâce à l'action collective, grâce à l'engagement de la société civile. C'est que comme ça qu'on arrivera à porter ce sujet et que ça devienne un sujet politique public. Donc sans l'engagement des gens, rien n'est possible. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on va mettre tous les liens des comptes à suivre où seront annoncées les futures actions dans la description de l'épisode. Pour citer les principaux, il y a le compte français de la SOA, donc SOA France sur Instagram, mais aussi forcément le compte de Camille Etienne, donc c'est Graines de Possible sur Instagram. C'est là-dessus qu'on annoncera les futures actions. Et à chaque fois que quelque chose est annoncé, vous pouvez faire en gros ce qu'on propose de faire, c'est-à-dire souvent voilà, les envois de mails, taguer des gens, communiquer sur ces sujets, etc.
On lance un appel à tous les gens connus, ton copain, bon pote. Je pense à Hugo Clément,
absolument.
Qui pourrait avoir envie de...
Il a déjà partagé quelques-unes des posts et des stories qu'on a fait, donc merci à lui, carrément.
Ouais, nos amis, oui. Peut-être de la Terre au Carré aussi, je pense à Camille Prony.
Oui, absolument, absolument. Oui, elle a fait un gros sujet au moment du One Ocean Summit de Brest. Il me semble que c'est dans son émission qu'ils ont fait un très très gros sujet sur le deep sea mining qui était passionnant et qui est disponible en replay d'ailleurs, vous pouvez écouter. On a souvent tendance à penser que nous, en tant qu'individus, on n'a pas beaucoup de poids dans ces choses-là. Là, les derniers mois ont montré que c'est faux, parce que franchement, on a eu une telle mobilisation sur les réseaux. Et merci à vous tous qui nous suivez et qui suivez Camille et qui envoyez des mails et qui signez les pétitions, etc. Parce que franchement, vous avez un impact incroyable. Tout seul, on est des petites gouttes, mais ensemble, on forme un océan.
Une grande rivière, c'est selon. Alors moi, j'aurais bien aimé dire d'autres contributeurs de cette cause.
Globalement, en France, en tout cas au niveau français, les grandes ONG qui sont positionnées et que vous pouvez évidemment soutenir, c'est Greenpeace en France, c'est Sea Shepherd, c'est le WWF, l'IUCN aussi, le comité français de l'IUCN. Il y a aussi, toutes ces personnes sont rassemblées sous le chapeau, l'égide, on va dire, voilà, de la Deep Sea Conservation Coalition. Et eux, ils ont fait un travail incroyable de vulgarisation que je vous invite à aller voir sur leur site parce qu'ils ont énormément de fact sheets, d'infos clés sur le deep sea mining. Ils publient tout ce qui se dit dans les salles de négociation. Ils font un travail incroyable de vulgarisation de toutes ces choses qui sont un peu complexes, arides à premier abord. Ça, c'est des exemples de comptes que vous pouvez suivre.
Et ne pas oublier aussi Bloom, je pense l'ONG Bloom, qui est notamment avec Claire Nouvian, qui était présent à Lisbonne et qui a fait des posts décrivant le sujet qui ont une portée énorme et qu'ils ont vraiment un rôle aussi super important. Donc l'ONG Bloom, qui est peut-être un peu moins connue aussi, n'hésitez pas à aller les suivre parce qu'ils font vraiment un travail de dingue.
Ouais, plus du côté derrière dans les coulisses justement des négociations au Parlement européen. Et après, on peut aussi en profiter pour se faire de la pub pour nous. Vous pouvez suivre Raphaël Seguin du coup à Underwater Baguette sur Instagram. Et moi, du coup, Anne-Sophie Roux, mon handle, c'est Anne-Sroux.
A-N-S-R-O-U-X.
Et on essaiera de relayer un maximum aussi, bien sûr, sur Baleine sous Gravillon. Est-ce que, les amis, on peut conclure cet épisode? Je vois que vous faites oui de la tête.
Tout est dit.
C'est le moment, c'est solennel de dire ça, tout est dit. Tout commence. Bon, bah, merci d'être passé, Anne-Sophie. T'as un train à prendre. Merci à toi, Raphaël. C'est drôle, hier, on a enregistré nos énormes émissions sur les coraux. Et là, bim, rebelote, tu as tenu à faire le deep sea mining. C'est toi qui m'as apporté le sujet, d'ailleurs, donc je te remercie pour ça.
Merci à toi.
Merci à toi.
J'étais content de faire ta connaissance, Anne-Sophie. Ben, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, on vous soutient à Baleine sous Gravillon. On était ravis de vous... Baleine sous Gravillon slash combat. Hein. Tout le monde comprend que combat, c'est le jumeau un peu actif dans l'action, l'activiste de la famille Baleine sous Gravillon. Donc, c'est dans ce cadre que vous passez. Ben voilà, merci d'être passé. Je vous laisse le mot de la fin. Une belle accolade et voilà, on est avec vous à Baleine, en tout cas.
Merci beaucoup, Marc. Merci aussi de parler de ce sujet si important et si peu connu sur Baleine sous Gravillon.
On remercie aussi la Sustainable Ocean Alliance, la SOA, qui a soutenu la réalisation de cet épisode. Je tenais à le dire, c'est très sympa. Bah ouais, moi aussi j'ai un peu besoin de vivre quoi. Chaque épisode, enfin chaque série d'épisodes me prend une semaine de travail. Donc c'est chouette quand ceux qui le peuvent peuvent aider. Donc je les remercie du fond du cœur. Ces épisodes ont été réalisés grâce à eux. Merci pour ça aussi.
Merci à toi.
Merci beaucoup Marc, et c'était intense mais un plaisir d'enregistrer ces deux épisodes sur les coraux et maintenant sur le deep sea mining.
Merci Raph, le moment est venu pour nous de prendre un verre ensemble. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour une nouvelle série dans Combat et dans Baleine sous Gravillon, dans Nomen et dans Petit Poisson deviendra podcast. Bien sûr, tout ça est très océanique à Baleine sous Gravillon. Merci les amis, prenez soin de vous, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Salut Marc, merci.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?